L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de l'Actu sur un plateau, votre tour d'horizon de l'actualité locale sur les ondes de Radio Larzac. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet d'actualité brûlante, c'est le mouvement des agriculteurs. On va parler de pesticides aussi, de syndicats agricoles, de confédérations paysannes, du plan éco-phyto. Enfin bref, un bon tour d'horizon avec Sarah Melki, porte-parole de la confédération paysanne en Aveyron. Salut Sarah.
Salut, co-porte-parole.
Co-porte-parole, merci pour la précision. Et aussi Philippe Piard, agriculteur et co-président aussi de Secrets Toxiques. Bonjour.
Bonjour Sarah.
Donc voilà, le mouvement des agriculteurs a aussi mis en avant cette question des pesticides et on va en parler avec vous. Toujours dans ce thème, Nicolas nous présentera une chronique sur le déclin de la biodiversité qui est liée entre autres à l'usage des pesticides. Et en fin de mission, je vous propose un pas de côté avec Justine Wojtyniak et Katia Fersing qui nous parlent d'une résidence d'écriture au musée de Millau autour des Macalvées qui a eu lieu en ce moment même. Et je n'oublie pas Nico à la technique. Salut Nico.
Coucou.
Donc c'est parti, on peut commencer. Voilà, donc rebonjour à tous les deux, merci d'être ici. J'aimerais commencer par toi Sarah, donc tu es co-porte-parole de la Confédération Paysanne en Aveyron. C'est un syndicat agricole qui est toujours mobilisé en ce moment pour le droit aux revenus paysans, contre les accords de libre-échange entre autres. Je voulais citer l'un des derniers communiqués de la Confédération qui dit « Les annonces du gouvernement sont très insatisfaisantes et ne répondent pas aux besoins de l'ensemble des paysannes et paysans. Le dogme du libre-échange est toujours bien trop prégnant au sein du gouvernement et des filières agricole. Donc comment ça avance la mobilisation jusque-là ?
Ben, du coup, on est toujours mobilisés, nous paysannes et paysans de la Confédération Paysanne en Aveyron. Hier, on était mobilisés contre un gros groupe prédateur qui s'appelle Société, racheté par Lactalis. En fait, les négociations qui ont été faites par la FNSEA et les JA avec M. Attal et avec le gouvernement ne nous satisfont pas. On parle de simplification administrative et on ne parle pas de revenus paysans. On ne parle pas de mesures d'accompagnement des paysannes et des paysans vers la transition agroécologique. On ne parle pas des prix planchers. Donc en fait, pour nous, la simplification administrative, oui, il y a des choses à faire, pas n'importe quoi, mais c'est juste un écran de fumée par rapport à nos revendications et à nos problèmes. Donc on continue d'être sur les ronds-points, dans les rues, à bloquer Lactalis, on va continuer à faire ça tant que le gouvernement ne comprend pas qu'en fait, il y a deux mouvements dans l'agricole. Il y a le mouvement des gros agriculteurs représentés par M. Rousseau de la FNSEA et par, alors ça vient de changer au JA, mais par les JA au niveau national. Ces gros agriculteurs, qui ne sont plus des agriculteurs, qui sont des agrobusiness, vont vers du libre-échange, vont vers encore plus de libre-échange, encore vers des fermes qui sont de plus en plus grandes, vers la destruction des territoires. Et donc nous, on combat ça. On est contre ce modèle-là, qui est aujourd'hui présent au niveau des politiques publiques en France.
Tu me parlais tout à l'heure aussi de la question des apiculteurs et apicultrices qui est remis en avant aussi par la Confédération Paysanne.
Oui, donc il y a des gros mouvements d'apicultrices et apiculteurs depuis quelques semaines, quelques mois, pour dénoncer la mortalité des abeilles qui sont liées à l'utilisation de pesticides et de produits chimiques dans les champs. Je n'ai pas leur revendication, mais en tout cas, il y a un gros souci avec l'utilisation de produits chimiques et la continuité des abeilles. Là, il y a une grosse perte de ruches, en fait, chez les apiculteurs cet hiver. Et c'est un énorme problème pour leurs fermes, mais aussi pour la biodiversité.
Et tout à l'heure, tu as parlé aussi de revenus paysans. Et en effet, les agricultrices et agriculteurs font un travail difficile, mais qui est nécessaire vraiment à la survie de tout le monde, puisque vous produisez la nourriture. Et pourtant, les rémunérations ne sont pas du tout à la hauteur. Alors, j'ai vu une étude de l'INSEE de 2021 qui a montré que plus d'un agriculteur sur 7 a connu des revenus nuls ou déficitaires en 2021, et plus d'un éleveur de vin ou de caprin sur 4. Donc je sais que c'est des questions complexes, mais comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est une question de surcharge administrative, comme tu disais, des contraintes liées à la PAC?
Ouais, bon, je pense qu'il y a plus, enfin il y a beaucoup de, enfin tu peux me compléter, Philippe, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a notamment la négociation des gros groupes prédateurs tels que Lactalis a toujours diminué les prix du lait, notamment chez les ovins lait, ici en Aveyron et sur le bassin de Roquefort. Il y a le fait qu'il y ait des fermes qui ne soient pas aidées par la PAC, les petites fermes, telles le maraîchage, les arbos, les apis, je ne sais même pas s'il y a quelque chose.
Un petit quelque chose.
Peut-être un petit quelque chose. Tout, en fait, c'est à la surface et pas à l'actif, les aides de la PAC. Donc il y a toute une partie de l'agriculture qui n'est pas aidée, et il y a une partie de l'agriculture qui est aidée, mais qui s'en sort quand même pas. On a une hausse des coûts de production ces dernières années, avec la hausse du carburant, qui sont énormes, et on a une baisse associée, par exemple, des prix du lait depuis ces dernières années.
Et on peut voir aussi depuis, moi je suis arrivé en Aveyron il y a une vingtaine d'années, une ferme de taille moyenne c'est 35 hectares, aujourd'hui on n'installe plus personne, enfin moi je parle sur le Lévézou, hein. On n'est pas sur le Larzac, mais on n'installe plus personne sur en dessous de 80 hectares, et on voit bien que les fermes s'agrandissent, et au fur et à mesure que les fermes s'agrandissent, le prix du lait, le prix de la viande baisse. C'est juste corrélé, puisque tout ça est fait pour répondre aux marchés internationaux. Donc effectivement, j'imagine que ces fermes caprines avec des animaux qui voient jamais le jour, hein, puisqu'il faut bien penser que ces grosses usines à lait de chèvre, hein, on a toujours ces belles appellations, la chèvre du Poitou, etc., mais elle ne sort pas, et c'est des élevages concentrationnaires. Et malheureusement, voilà, ils n'ont pas la main sur le... C'est quand même la seule profession qui vend sans savoir à combien elle vend, quoi. C'est assez hallucinant quand même.
Oui, et d'ailleurs, vous en avez parlé, les aides de la PAC sont distribuées en fonction de la taille de la ferme, de l'exploitation agricole, et donc elles favorisent beaucoup les grands propriétaires, notamment les céréaliers et les grands éleveurs, comme tu disais aussi, Philippe. Donc par exemple, vous pensez qu'il est nécessaire de revoir la PAC ?
Bah oui, il est nécessaire de ramener à l'actif les aides de la PAC. C'est certain, en fait, il y a quand même beaucoup de paysannes et de paysans qui ne sont pas aidés et qui ne s'en sortent pas. Il y a beaucoup de paysannes et de paysans qui sont au RSA aujourd'hui. Alors pour un peu dénoncer ça, dans l'Aveyron, on est un département test pour la nouvelle loi plein emploi, où on nous demande, nous paysannes, nos paysans au RSA, de prendre un emploi à temps partiel.
À hauteur de 15 heures par semaine, il me semble, ou peut-être même plus.
Alors en temps partiel, je ne sais pas ce que ça représente, n'empêche qu'en fait c'est pas
impossible.
Possible. Donc en fait, on nous tape dessus parce qu'il y a un libre-échange, enfin les produits circulent et on ne peut pas vendre mes fruits, mes légumes à un prix qui permette de me faire vivre. Du coup, je suis allocataire du RSA et on me tape en plus dessus pour que je trouve un emploi à côté. Enfin, on va où ?
Oui, puis on voit bien que cette PAC, c'est vraiment un outil politique. En fait, c'est pas juste une aide aux agriculteurs sans arrière-pensée. Elle est vraiment faite au service de l'agro-industrialisation de la production en Europe. Et ce qu'elle entraîne, c'est des mises en concurrence des pays entre eux. Donc on est très content quand on arrive à exporter nos céréales ou nos pommes en écrasant des agricultures dans d'autres pays, puis on pleure quand le porc danois arrive sur nos marchés moins cher. En fait, c'est tout ça qu'elle permet, cette PAC. Et on voit bien avec toutes les idées de méthanisation, d'agrivoltaïsme, on voit bien qu'on essaye de générer des revenus sur les fermes qui n'auraient plus rien à voir avec une agriculture qui est censée normalement nourrir les êtres humains. Et en fait, on est sur cette mise en concurrence qui, les seuls bénéficiaires, c'est l'agro-industrie, donc les grands distributeurs, les grands transformateurs, et les dindons de la farce, à chaque fois, c'est les paysans et les paysannes. Donc voilà, on marche sur la tête.
Oui, en effet, c'est une politique, certaines la définissent comme la seule réelle politique économique de l'Union européenne. C'était presque un succès quand elle était mise en place dans les années 50, mais aujourd'hui, on voit que la moitié des fruits et légumes qu'on consomme en France sont importés. Donc effectivement, il y a un échec par rapport à cette politique. Un autre aspect, et vous en avez parlé aussi, c'est le plan Ecophyto. Donc c'est l'ensemble des mesures prises pour réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2030. Alors la FNSEA, dans sa mobilisation, demandait l'arrêt de ce plan. Et suite à cela, donc, le gouvernement a annoncé que l'indicateur du plan Ecophyto, donc, pour mesurer chaque année l'utilisation de pesticides, va changer. Pourtant, le gouvernement a assuré et insiste en disant que l'objectif d'Ecophyto, donc de réduire les pesticides, comme on disait, de 50%, n'est pas remis en cause. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben, en fait, on est en train d'abandonner le plan Ecophyto en France. C'était pas grand-chose, mais c'était déjà un énorme pas vers moins de chimiques et plus de biodiversité. En réalité, ceux qui ont négocié l'arrêt de ce plan phyto, ben c'est pareil, c'est les grands alliés de la bosse, en fait, parce que ça n'impacte que ce plan, et ça n'impacte pas énormément, en fait, les gens du coin. Du coup, c'est encore une négociation qui a été faite par des agro-industriels pour aller vers plus de chimiques, et puis moins de nature, et puis continuons, quoi. Fin...
Oui, c'était déjà un plan qui était... qui n'avait rien de contraignant, donc il était très intéressant dans le sens où quand on mettait en œuvre une réduction de 50% de l'usage des pesticides arrivait au bout de la première année, et souvent la marche suivante c'était d'arriver à 80%, et c'était assez facile à atteindre tout compte fait. Voilà, on aurait aimé avoir un plan d'accompagnement vers une sortie, une transition agroécologique des fermes, parce que quand le rapport Potier qui est sorti au mois de décembre a fait le bilan des plans Ecophyto et Ecophyto 2 pour justement imaginer un plan Ecophyto 2030, il a fait le constat d'un échec fort et sur plein de secteurs, puisqu'on voit bien, alors là vous parliez tout à l'heure des indicateurs, effectivement ils veulent changer, ils veulent casser le thermomètre, comme ça au moins on saura plus, puisque l'indicateur qu'on utilise aujourd'hui en France qui s'appelle le NODU montre bien qu'on est toujours, le NODU c'est le calcul des doses en fait, et ils veulent passer sur le HRI1 qui est donc ce que veulent les industriels. Une fois de plus on voit comment ils sont à la manœuvre pour dicter les lois et les réglementations dans les États membres de l'Union européenne. Et là, on n'est plus sur des doses effectives, on est sur une quantité. Donc, on va comparer des levures qui n'ont aucun impact, qui vont être utilisées par dizaines de kilos, à des centaines de grammes de pesticides très toxiques. Mais voilà, du coup, avec ce, on n'aura plus de rapport. Alors, il y a effectivement quand même des pourcentages de toxicité, mais si on avait utilisé aujourd'hui le HRI1, on montrerait que la France diminue son usage de pesticides, alors que le NODU montre le contraire. C'est pour ça qu'ils veulent casser le thermomètre. Et le NODU est aujourd'hui le seul indicateur relativement fiable pour vraiment enregistrer l'utilisation des pesticides en France.
Donc en fait, ce changement d'indicateur va permettre d'utiliser finalement encore plus de pesticides.
Oui, de plus rien respecter en fait. C'est ça, hein, c'est ça qui est terrible, c'est quand ils appellent à une simplification administrative. Alors c'est vrai qu'on en aimerait bien, hein. Moi j'en ai marre de passer mon temps sur un ordinateur à remplir et des trucs pour la MSA et des trucs pour la PAC et des trucs pour... C'est assez lourd, mais simplifier et supprimer... Comme ils le font pour l'arrachage des haies, on va simplifier pour qu'ils puissent encore plus arracher des haies. Je ne sais pas, il en reste déjà plus dans des grandes régions de France, comme la Beauce, comme la Picardie, comme la plaine d'Île-de-France. Enfin, traverser la France, on a de la chance ici, nous, dans nos montagnes, mais dès qu'on arrive dans ces plaines, on se plaint de déserts médicaux. Mais qui a envie de vivre dans ces endroits qui ont été entièrement désertifiés ? par l'agriculture, quoi. Donc ça, c'est assez terrible. Et en fait, on va simplifier encore plus tout ce qui va permettre d'accentuer, d'accélérer cette agriculture qui est, comme le disait Sarah, complètement destructrice de la biodiversité et puis même destructrice de sa propre agriculture. Parce que, en fait, on est au bout d'un système qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne que grâce à la chimie. Il en faut de plus en plus parce que les terres sont incultes. En fait, elles ne sont cultivables parce qu'on utilise des engrais. Les plantes utilisées ne survivent que si on utilise des fongicides, des insecticides, des herbicides pour les protéger. Voilà. Donc, on voit bien qu'on va dans le mur. Même l'INRAE le dit. Elle a un programme de sortie des pesticides à l'horizon 2050 parce que il n'y a plus de cible en chimie, on est au bout. Et le rapport de l'INRAE et l'IFREMER qui est sorti en 2022 montre, déjà, la première chose, c'est tous les dégâts causés sur l'entièreté de l'environnement. Donc la chimie agricole est bien responsable des 80% de disparition des insectes en Europe. Elle est bien responsable des 40 à 50% de disparition du nombre d'oiseaux. Ça, c'est clair, c'est montré, on ne peut pas le nier. Mais surtout, elle montre que en continuant ce système, même l'agriculture va baisser en productivité. Donc on est sur une impasse. Et quand on voit qu'on prend des mesures pour essayer d'enfoncer le mur, je ne sais pas, moi je personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir envie d'aller encore plus loin dans ce système-là.
Et donc, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, par exemple, à la Confédération Paysanne, est-ce que vous avez pu avoir ne serait-ce qu'un dialogue avec au niveau local par rapport à ces revendications ?
Alors, on est entendu par la société civile, ce qui est déjà pas mal. On a été invité par la préfecture il y a quelques semaines sur deux réunions suite aux annonces de Monsieur Attal pour travailler sur de la simplification administrative. En fait, on n'était pas d'accord avec ça. Enfin, OK, il y a des simplifications à faire, mais en fait, c'est un écran de fumée. Donc nous, on a revendiqué le besoin du revenu. Donc il y avait la DDT, la MSA, la région, la préfecture, et tous les syndicats agricoles et la chambre d'agriculture. Donc monsieur le préfet nous a proposé de travailler là-dessus sur le revenu agricole. On attend de voir ce qui se passe après, mais... En fait, les lignes du gouvernement sont assez claires. Je ne pense pas que la préfecture ira à l'encontre de ça. C'est un peu... on fait ce qu'on peut. Après, c'est à travers nos actions qu'on se fait entendre. Et là, aujourd'hui, les scientifiques, quand même, se mobilisent à fond contre l'arrêt de ce plan éco-phyto. Ils ont très bien montré qu'il y a des cancers, qu'il y a des maladies qui sont liées à l'usage de pesticides. Et donc, ils ne comprennent pas ce revirement. Donc il y a aussi cette communauté scientifique qui se mobilise.
Et donc vos revendications, vous les faites entendre. Est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon peut-être de ce que vous demandez? Alors tu as parlé du revenu paysan et d'agroécologie aussi.
Eh ben ouais, du coup sur le revenu paysan, ce qui est demandé c'est du coup sur des filières longues l'instauration de prix planchers. Des prix planchers, des prix minimums où la paysanne ou le paysan va vendre son produit, enfin va vendre ce qu'il produit. Et ce prix plancher devrait comprendre du coup ses coûts de production, mais aussi son revenu. Donc en fait, ça, ce prix, il devrait être fixé pour probablement toutes les filières, probablement dans tous les départements ou dans les bassins de production, pour que les paysannes et les paysans puissent vivre de leur travail. On demande aussi du coup l'instauration de prix minimum d'entrée sur le territoire national. Alors c'est pas du protectionnisme, mais c'est du coup aussi protéger les paysannes et les paysans de ces pays-là qui produisent aussi à perte, parce que quand on a un désaccord de libre-échange, c'est pas que les paysannes et les paysans c'est des deux pays, enfin les deux continents qui en souffrent et qui du coup finissent par mourir, et c'est des grosses fermes agro-business qui prennent le relais et qui du coup produisent à un prix plus dérisoire, mais ce sont plus des fermes. Donc du coup une instauration de prix minimum d'entrée.
C'est aussi que je pense dans notre pays moins riche que la France, les paysans gagnent encore moins, et donc on peut racheter leurs produits à travers ces accords à un prix qui est encore plus défavorable pour eux. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire mettre un prix, comme tu dis, sur les produits importés.
Oui, ce sera bénéfique, en fait, en tout cas, pour les deux côtés. Et en fait, aussi, ça nous protège des importations déloyales, tant sur le plan social qu'environnemental. Il y a quand même des façons de produire à l'étranger, dans certains pays, qui sont agroécologiquement inacceptables et qui arrivent avec des prix défiant toute concurrence. Donc, qu'est-ce qu'on veut aussi manger sur le territoire et, après, ça, c'est un sujet qui est un peu compliqué aussi, parce que quand on n'a pas la thune à la fin du mois, on va au moins cher, quoi. Il y a une autre revendication qui est la hausse de l'accompagnement des paysannes et des paysans dans la transition agroécologique. Le principal frein de la transition, c'est l'insuffisance d'ambition de politique publique. Ça pourrait passer par les MAEC, qui sont des mesures agro-environnementales à travers la PAC. Puis après, on en parlait tout à l'heure, mais une PAC qui soit plutôt en soutien aux actifs sur les fermes et pas à la surface. En Aveyron, nous proposer aussi un soutien à l'élevage paysan et herbager, qui reconnaît le travail herbager de pâture, etc. Mais du coup aussi d'être contre la viande in vitro en France, qui a des trucs qui sont en train de se passer là-dessus. Sur les propositions de M. Attal, il y avait aussi la diminution une moindre protection administrative pour faire plus de méga-bassines.
Oui, en effet.
Pareil, on est complètement contre. Pourquoi pomper dans les nappes pour l'amener à la surface et puis assécher tout le reste pour une agriculture qui n'est pas, une production agricole qui n'est pas du tout adaptée au territoire.
Qui est encore une fois... les méga-bassines bénéficient surtout les grands producteurs, encore une fois, et ceux qui ont les plus grandes surfaces. Et souvent, ça peut être utilisé aussi pour autre chose que l'agriculture, comme tu disais, le bioéthanol, ouais. Ou des choses comme ça. Et en effet, j'ai entendu un autre porte-parole de la Confédération paysanne qui disait qu'en fait, la meilleure façon de stocker l'eau, c'est quand elle reste sous terre. Donc il n'y a pas besoin de la pomper, comme tu dis, ailleurs.
Bah oui, non, c'est sûr. En sachant que Monsieur Rousseau, président de la FNSEA, qui est aussi directeur du groupe Avril, vient de négocier un contrat avec Total et le gouvernement pour augmenter de 20% l'apport d'agrocarburants aux pompes. Donc ce modèle agricole, en fait, est encore en train de nous échapper, effectivement. Après, plus on s'installe et plus on maintient nos fermes, nos petites fermes sur le territoire et... Je pense que ça va aussi passer par là, mais...
Bien sûr. Dans tous les cas, merci pour cette première partie. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, du coup, on est contre aussi l'instauration des accords de libre-échange. Non oublié, dont celui du Mercosur qui est d'actualité en ce moment. Et du coup, qui est en accord avec la rupture du dogme du libre-échange.
Tout à fait. Eh bien, merci. On va continuer de parler de ces sujets parce qu'ils sont importants et c'est des sujets vastes qui, je pense, il est nécessaire d'approfondir. On va parler aussi un peu plus dans le détail de ces secrets toxiques puisque tu es là, Philippe. Et avant ça, par contre, on va faire une pause musicale, une chanson de Mes souliers sont rouges, Marais chez mon ami, qui m'a été conseillée par Hugo quand je préparais cette émission.
J'avais de bonnes terres, j'avais de bons outils, le temps s'en va. Mais on a tué les abeilles, plus rien n'arrête le soleil. J'ai quitté mes jardins, le temps s'en va, ne m'en reviendrai pas.
Le temps s'en va, ne m'en reviendrai pas.
Boulangère, mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie?
Mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie?
J'avais de bon levain et belle meunerie. Le temps s'en va, mais on ne fait plus de farine ailleurs que dans les grandes usines. J'ai quitté mon pétrin. Le temps s'en va, ne m'en reviendrai pas.
Le temps s'en va, ne m'en reviendrai pas.
mauvais âme au comptoir, des gens qui savaient boire.
Le temps s'en va,
mais bientôt les temps ont changé. On ne boit que pour oublier. J'ai quitté mon bistrot. Le temps s'en va, ne m'en reviendrai pas.
Le temps s'en va, ne m'en reviendrai pas.
Marin pêcheur, mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie?
Marin pêcheur, mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie?
J'ai pris dans mes filets seulement ce qu'il fallait. Le temps s'en va, les chalutiers d'aujourd'hui dévastent les fonds, c'est fini. J'ai quitté mon bateau. Le temps s'en va, ne m'en reviendrai pas.
Le temps s'en va, ne m'en reviendrai
dans ta vie.
Musicienne, mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie?
J'ai chanté mes chansons au gré du vent des saisons.
Le temps s'en va,
le temps s'en va. Mais dans le monde d'aujourd'hui, plus de folie que des produits. Mais je garde ma guitare. Mon temps est là, ami, chante avec moi.
Mon temps est là, ami, chante avec moi. Mon temps est là, ami, chante avec moi.
De retour dans l'actu sur un plateau en direct depuis les studios de Radio Larzac, et c'est l'heure de la chronique avec toi Nicolas, salut.
Salut, tu vas bien?
Oui, et toi?
Ça va, ça va. Vous allez bien aussi?
Pardon.
Très bien.
Et oui. Alors c'est une chronique, c'est plutôt Lilou qui l'a préparée, mais c'est toi qui vas la présenter aujourd'hui. Et c'est une idée que vous avez eue tous les deux de parler de biodiversité.
Ouais,
donc voilà,
ça.
C'est la première.
Et oui, alors du coup merci Sophia. Du coup je vais parler de l'impact sur la faune locale, l'impact de l'homme sur la faune locale. Lilou s'est rendu au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage. Il s'agit d'un centre agréé pour recueillir des animaux blessés, orphelins ou en danger, pour les soigner et essayer de les relâcher à nouveau dans la nature. Là-bas, elle a pu rencontrer Elodie, salariée, qui a répondu à quelques questions sur le sujet. Tout d'abord, elle nous a expliqué quel était l'impact de la présence humaine sur la biodiversité.
On entend beaucoup parler ces dernières années de la 6e extinction de masse à cause de l'activité humaine, donc la pollution, la dégradation des habitats, etc. Tout le monde a en tête les espèces emblématiques, l'ours polaire, les grands primates, mais il n'y a pas que ça. Nous, au niveau du centre de sauvegarde, on n'a pas forcément les clés pour quantifier cet impact. Par contre, on se rend compte que des espèces qui étaient recueillies assez régulièrement avant le sont beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'elles sont beaucoup moins présentes sur le territoire, voire quasiment disparues pour certaines.
Alors, au-delà des espèces qui disparaissent, il y a aussi des nouveaux animaux qui s'installent sur le territoire, des espèces exotiques, envahissantes, arrivées ici par bateau ou parce qu'elles sont échappées de captivité.
Par exemple, il y a la perruche à collier qui s'est installée en France depuis plusieurs années et qui est vraiment très très présente aujourd'hui, plusieurs milliers d'individus je pense en France. Ces espèces-là sont un danger pour la faune sauvage locale dans le sens où elle va leur faire concurrence, que ce soit sur le plan alimentaire, sur les sites de nidification, etc. Donc ça fait une menace en plus pour les espèces de faune sauvage locale. Après, il y a des actions positives comme les programmes de réintroduction d'espèces qui étaient historiquement présentes sur le territoire, donc le vautour fauve, le castor d'Europe, des choses comme ça, qui ont été réintroduites par l'association Natura Aveyron à la fin des années 80. Et il y a aussi des espèces dont les habitudes de vie se modifient, comme par exemple le martinet noir, qui à la base nichait plutôt dans les falaises. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, les martinets qui nichent dans les falaises. On les retrouve principalement en ville, sous les toits. Et du coup, ça fait qu'ils sont beaucoup plus récupérés en centre de sauvegarde parce qu'ils se retrouvent à sauter des nids parce qu'il fait beaucoup trop chaud sous les toits. Donc, c'est des animaux qui se retrouvent beaucoup plus facilement en difficulté maintenant.
Elodie nous a également parlé des actions menées sur le territoire pour la sauvegarde de la biodiversité, ainsi que les bons gestes que tout le monde peut adopter pour sauver les espèces locales. Elle nous a aussi parlé des gestes qui se veulent bons, mais ne le sont pas forcément.
Il y a les programmes de réintroduction, comme je disais, et il y a aussi les collectivités qui jouent un petit peu plus le jeu avec la création de zones protégées, des plans de gestion qui se veulent beaucoup plus neutres aussi. Et nous, au niveau du centre de sauvegarde, on essaye d'organiser au maximum d'animations pour le grand public dans le but de les sensibiliser au maximum de tout ce qui nous entoure et surtout expliquer les bons gestes pour éviter qu'il y ait des ramassages abusifs et d'interférer avec le développement naturel des animaux. Nous, au centre de sauvegarde, on se rend compte que les gens ont de plus en plus conscience de l'importance de protéger toute espèce que ce soit. Avant, la grande majorité des animaux accueillis, c'était des rapaces. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de petits passereaux, donc des moineaux, des mésanges, des choses comme ça. Chose qui n'était pas le cas avant, parce que les gens qui voyaient un moineau blessé, ils se disaient un petit peu, bon, un moineau, c'est pas très grave, il y en a plein, quoi. Et le laissaient un petit peu sur le côté. Donc bon, c'est une bonne chose, on se rend compte que les consciences évoluent. Par contre, les gens sont pleins de bonne volonté, mais très mal informé. Il y a beaucoup de situations qu'on retrouve quasiment tous les ans où l'animal n'aurait pas dû être ramassé. J'ai l'exemple des jeunes, en fait, jeunes oiseaux qui ont une phase d'émancipation au sol qui est complètement naturelle pour eux. Et les gens qui vont trouver un jeune oiseau comme ça vont le ramasser dans les trois quarts du temps sans s'en prendre avis auprès d'un professionnel ou quoi que ce soit. Et du coup, ils vont priver le jeune de son développement naturel et de l'apprentissage de ses parents. En quelque sorte, être condamné à être élevé par l'humain avec tous les risques que ça peut entraîner d'imprégnation, d'apprentissage de vol, apprentissage de la chasse, etc. Il y a aussi l'exemple d'une tourterelle, par exemple, qui aurait été prédatée par un épervier. Les gens vont faire fuir le rapace pour récupérer la tourterelle, donc très mauvais réflexe, parce que d'une part, l'épervier aura dépensé beaucoup d'énergie pour attraper un oiseau, et finalement, il se retrouve privé de son repas, et en plus de ça, il va être obligé d'aller attraper un autre oiseau pour se nourrir. C'est bien parce que les gens sont de plus en plus conscients. Par contre, il reste encore énormément de travail au niveau de la compréhension du vivant, de savoir ce qui se passe réellement dans la nature pour protéger réellement les espèces sans interférer dans leur développement naturel.
Voilà, c'était les quelques réponses d'Élodie, salariée au centre de sauvegarde de la faune sauvage à Millau. Et ces quelques réponses nous suffisent pour comprendre que même si des actions sont faites pour la faune et que les choses évoluent petit à petit, ce n'est pas suffisant et que l'humain n'est pas encore assez conscient de l'importance de la faune et n'a pas encore les bons réflexes face à celle-ci. Je remercie Lilou, bien évidemment, qui a fait cette chronique. Et Élodie pour ses réponses, et merci à toi Sophia de nous avoir laissé faire cette chronique ici. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique qui portera sur ces fameux réflexes que tout le monde devrait avoir, mais qui ne sont pas encore acquis.
Merci à toi, Nicolas.
Mais de rien, merci beaucoup.
Ouais, je sais pas si c'est une question de conscience du public ou si c'est que on s'est trop enfermé dans nos villes, on s'est éloigné de la nature et du coup on sait plus comment ça fonctionne. Et l'exemple de l'épervier qui vient chasser une colombe ou quelque chose comme ça, ben oui, il a besoin de manger, c'est naturel, c'est pas un méchant épervier parce qu'il est carnivore, il a juste besoin de subvenir à ses besoins et de manger, quoi. Et voilà. C'est des réflexes, il va falloir y travailler tous ensemble.
Et c'est non seulement des réflexes aussi, mais comme tu disais, une conscience et une nouvelle approche aussi au vivant qu'on a un peu perdu, comme tu disais aussi. Et donc, en fait, cette chronique, elle tombe bien dans l'émission d'aujourd'hui parce que, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, le déclin de la biodiversité est aussi très lié à l'usage de pesticides. Alors, tu as parlé du déclin des insectes et des oiseaux. Donc, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça ?
Non, mais malheureusement, les constats sont tristes. Rajouter quelque chose, je pense que oui, c'est toute la chaîne alimentaire chez les animaux, mais jusqu'à l'homme. Jusqu'à l'homme, et c'est bien ça qui est terrible. Et donc on parlait du rapport INRAE-IFREMER tout à l'heure, sur les impacts sur la biodiversité et sur les services écosystémiques, mais le rapport de l'INSERM, qui a juste un an de plus que celui de l'INRAE-IFREMER, puisqu'il date de 2021, montre les impacts sur la santé humaine de l'usage des pesticides. On voit l'allongement des maladies professionnelles inscrites au tableau. Donc inscrit au tableau, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que à partir du moment où on peut justifier l'utilisation de pesticides et qu'on déclenche une maladie inscrite au tableau, on est d'emblée reconnu en maladie professionnelle. Et ça, c'est terrible parce que je voulais juste rappeler l'esprit fondamental de la réglementation européenne, donc qui s'impose aux États membres, c'est on ne saurait autoriser la mise en marché de produits pouvant porter une atteinte grave à la santé et à l'environnement. Donc on voit bien que et pour la santé et pour l'environnement, la réglementation n'est pas respectée, l'esprit de la réglementation n'est pas respecté. C'est ce que nous, on a dénoncé à Secret Toxique. Et la liste dont je parlais des maladies professionnelles et aussi des maladies dans la population, mais celle des agriculteurs, elle ne fait que s'allonger, quoi. Je dirais, aujourd'hui, il y a des glioblastomes qui ont été, donc ce sont des cancers du cerveau, qui ont été validés en reconnaissance professionnelle. Ça sera malheureusement inscrit bientôt au tableau. Donc on a des paysannes et des paysans qui sont malades. Et la seule chose qu'on leur propose par rapport à ça, ben, c'est de supprimer le pluricophyto.
Mais en effet, tu en parlais, mais j'ai vu aussi que c'est vraiment montré par des études, comme tu disais, une augmentation de beaucoup de formes de cancer chez les agricultrices et agriculteurs. Donc Secret Toxique, c'est une coalition qui rassemble 80 associations et syndicats qui luttent pour exiger un vrai contrôle de la toxicité des pesticides avant leur commercialisation. Est-ce que tu pourrais nous parler de vos actions ?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'on a identifié suite... c'est un faisceau de convergence, hein, Secret Toxique, puisqu'il y a eu une action de faucheurs qui ont peinturluré des bidons de glyphosate, de produits à base de glyphosate dans une jardinerie à Foix, qui a entraîné un procès. Ce procès a généré des questions préjudicielles qui ont été posées à la Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice nous a fait une relecture de la réglementation. Et c'était très intéressant, puisque en fait, elle disait non, mais il n'y a pas de souci. Les gens, là, devant vous, ils pissent du glyphosate. Il y a des produits non déclarés dans les bidons à base de glyphosate. Mais ce n'est pas à cause de la réglementation. Donc elle nous disait entre les lignes, c'est juste que la réglementation n'est pas respectée. Donc ça, c'était intéressant, parce que c'était un peu le point de départ de la campagne Secret Toxique. Il y a eu un deuxième point de départ, c'était des études de Gilles-Éric Serralini et de Gérald Gingère qui ont, sur des pesticides grand public, donc des herbicides grand public qu'on peut trouver dans n'importe quelle jardinerie sans aucune préconisation d'usage, dans lequel on trouvait des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des métaux lourds. Donc on voit qu'on avait des produits vendus comme d'origine naturelle, qui étaient d'une très très grande toxicité. Donc nous, voilà, ce qu'on a fait à la suite de cette publication, et ça c'était la création, le lancement de Secret Toxique, c'était une plainte contre X. Et on a demandé, on demande toujours, puisqu'il n'a encore rien fait, au bout de presque plus de 3 ans, on demande au parquet d'enquêter. Et nous on a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, fraude à l'étiquetage et fraude à la déclaration. Et à la suite de ça, on a décidé d'enquêter pour voir comment la réglementation en 107-2009 était... ou non respectés au sein de l'Union européenne elle-même et au sein des États membres. Donc c'est ce qu'on a fait pendant toute l'année 2021. Et on a bien eu la confirmation, puisque c'est sorti dans la presse début janvier, le service juridique du Parlement européen confirme tout à fait ce qu'on dit, c'est-à-dire que les autorisations, les approbations de substances qui sont faites au niveau de l'Union européenne sont illégales. Donc on est très content d'avoir raison. Le problème, c'est pas parce qu'on a raison qu'on a gagné. Et si c'était le cas, on aurait gagné depuis longtemps. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait à la suite de ça ? Nous, on a porté un recours devant le Conseil d'État en France, puisque la réglementation n'est pas appliquée au niveau européen, mais elle n'est pas appliquée non plus au niveau d'un État membre et de tous les États membres. Et quand on imagine que tout le monde se vante qu'on est, nous en France, la meilleure agence sanitaire, je n'ai juste pas imaginé l'état des autres agences sanitaires dans les autres États membres, vu que, au résultat, son travail, c'est quand même de produire et d'autoriser à la mise en marché de produits dont les dossiers ne sont pas complets. Vous pouvez toujours, par corrélation, demander une carte grise à la préfecture avec un dossier incomplet. Vous pouvez toujours l'attendre longtemps, votre carte grise. Par contre, un industriel qui vient avec un dossier incomplet, et donc surtout... le point le plus important, une étude de toxicité à long terme sur la formulation complète, c'est-à-dire le produit tel qu'il est utilisé, c'est ça qu'on demande, c'est juste, c'est ballot.
Oui, parce qu'en fait, vous dites par exemple qu'on connaît la toxicité du glyphosate, mais personne met du glyphosate directement dans les champs, c'est souvent dans une formule où on ne connaît pas la toxicité.
Exactement, c'est toujours dans une formulation. Et en fait, ce que montrent les études scientifiques, c'est que la différence de toxicité entre la substance déclarée active, et on insiste sur le mot déclarée, parce que non seulement il n'y a que l'industriel qui déclare ce qui est actif, et en plus les tests d'efficacité du produit n'existent pas, ne sont pas faits. Autant sur un médicament, on demande qu'un test d'efficacité du médicament soit fait, sur un pesticide, on dit non, la substance active, c'est le problème de l'industriel. Si ce n'est pas efficace, tant pis pour lui, quoi. Donc il déclare un truc actif, dont on n'a aucune preuve de l'efficacité. Par contre, la formulation complète, elle, on voit bien l'efficacité. Et la différence de toxicité entre les soi-disant substances actives déclarées par les industriels et les formulations complètes, c'est 10, 100, 1000. Et jusqu'à des 100 000 pour les cellules embryonnaires. Ce qui explique malheureusement le cas de l'affaire Grataloup, de ce jeune Théo qui est né avec une malformation de l'œsophage et de la trachée et qui a été opéré 57 fois quand même. Il n'a que 14 ans. Parce que sa maman a utilisé un produit à base de glyphosate, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Voilà, donc on voit bien l'impact de ces produits-là sur les cellules embryonnaires, et Théo a été, la maladie de Théo a été reconnue par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc on a pas nié, c'est bien la réalité, il est bien malade à cause de ça. Et voilà, et nous c'est pour ça qu'on dénonce ça, parce que c'est un mensonge fondamental, ce mensonge de base d'ignorer la toxicité des produits. En fait, tout en découle. Il en découle les maladies professionnelles qu'on ne devrait pas avoir chez les agriculteurs, dans la population, l'augmentation de des maladies chroniques. Et là, on a des mutuelles qui nous ont rejoints. Alors, il y a eu d'abord 2 mutuelles, puis 10, puis 12. Et là, c'est 14 mutuelles qui ont interpellé Gabriel Attal. Et on s'en va à l'Union européenne avec 25 mutuelles plus des mutuelles européennes. Parce qu'elles payent, je veux dire, elles voient bien l'augmentation. Puis elles ont un devoir de protection de leurs assurés. Et elle voit l'augmentation des maladies chroniques. Et il y a des facteurs environnementaux. C'est, je veux dire, chez l'enfant, 90% des cancers sont liés à l'exposome, pas du tout à la génétique. C'est 10% à la génétique. Donc en fait, 9 cancers sur 10 sont liés chez l'enfant à l'exposition dans le monde dans lequel il vit. Donc il y a vraiment une urgence à faire quelque chose sur l'exposition. Et donc, au niveau des actions qu'on a menées, on a aussi deux recours au niveau européen. Une demande de réexamen interne, puisque voilà, on va travailler quand même malgré tout sur le glyphosate, nous aussi, parce que c'est le seul pesticide qui a reçu une réapprobation en 2023. Donc, on demande à la Commission de revoir sa copie. Et puis, si elle refuse, on l'attaquera devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et on a déposé aussi hier un recours en annulation, direct devant la Cour de justice de l'Union européenne. On demande à la Cour d'annuler la décision de la Commission. Voilà. Et on va continuer à monter d'autres actions juridiques, parce que c'est insupportable de voir les conséquences de ce mensonge. Et dans les mensonges, dans la liste des mensonges, c'est aussi l'abandon du plan Ecofito. Pourquoi continuer un plan Ecofito puisqu'on nous dit en permanence que les produits ne sont pas dangereux? Et ils ne sont pas dangereux parce qu'on ment au départ sur leur réelle toxicité.
Merci. Donc Sarah, la Confédération Paysanne fait aussi partie de la coalition Secret Toxique. Donc tu en as parlé, mais je pense que vous partagez toutes ces revendications et ces actions.
Bah oui, tu m'étonnes.
Et j'aimerais revenir maintenant sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à vos revendications. Alors tu me disais aussi qu'il y a la question des marges de la grande distribution, donc de diminuer ces marges-là.
Non, en tout cas de les contrôler. Qu'il y ait une politique publique à contrôler les marges de la grande distribution. Il y a un article de Mediapart là, que j'ai eu ce matin où il disait que les marges de la grande distribution sur le lait de bovin, je crois, est passé de 15 à... Enfin, et a doublé, en fait. Elle est passée de 15 à 26% en l'espace de quelques années. Donc voilà, on propose qu'il y ait une politique publique pour, en tout cas, encadrer toutes ces marges agro-industrielles.
Alors, on a parlé aussi de la PAC, du fait qu'elle représente un échec, parce qu'aujourd'hui, la moitié des fruits et légumes consommés en Europe sont importés. Alors, encore une fois, c'est une question vaste, mais vous, comment vous voyez les choses par la suite? Quelles sont les solutions pour produire assez de nourriture pour tout le monde en France? Parce qu'il y a bien des paysans, paysannes, et aussi des scientifiques qui disent qu'en fait, c'est possible de nourrir tout le monde sans forcément importer, et qu'il faut se tourner, par exemple, vers plus d'agroécologie.
Ouais, en fait, il faudrait demander aux gens ce qu'ils aimeraient manger, qu'ils choisissent leur alimentation. Et par exemple, à Millau, on pourrait demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Et à partir de là, on pourrait travailler sur une sécurité sociale de l'alimentation. On voit qu'au niveau des politiques publiques nationales, en ce moment, c'est pas un modèle agricole de petite paysannerie qui est en train de se développer, ou en tout cas, c'est celle que le gouvernement attaque. Par contre, à travers des politiques publiques locales, et notamment à travers la sécurité sociale de l'alimentation, on pourrait en fait créer des bassins de petites fermes qui servirait à nourrir la population locale. Donc du coup, que les gens choisissent, que les gens, qu'on cotise à un fonds et qu'il soit redistribué à chaque personne, comme la sécurité sociale en fait, de la santé. Pourquoi ne pas le faire pour l'alimentation? Et que du coup, en fait, on sait très bien que les gens vont choisir une alimentation saine, une alimentation locale, s'il y a localement la production, ou enfin voilà, le local il se définit, mais... Et en tout cas, ça pourrait aider à ce que des jeunes s'installent et produisent une alimentation qui est demandée par la ville, qui est demandée par les gens qui sont en ville, ou les gens qui sont en local, mais en tout cas des gens qui consomment. Donc ça, c'est une des grands projets. On est en train de travailler à Millau sur là-dessus depuis un an et demi, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a des villes qui l'expérimentent, à Montpellier, à Marseille, à Grenoble, à Saint-Étienne. Enfin, c'est encore en train de vraiment se développer. Et en fait, ça, c'est un levier pour changer le modèle agricole aussi. Et la façon de consommer, par le choix. On laisse le choix aux gens de consommer.
Oui, tout à fait. Je pense que ça vaut le coup de l'approfondir.
Et puis, il faut bien imaginer, faut bien comprendre qu'aussi, tout ça, c'est tout à fait politique, puisque on sait que les coûts cachés de l'utilisation des pesticides, de cette agriculture agro-industrielle et très intensive, destructrice de biodiversité et impactrice sur la santé, sur l'eau, enfin, c'est 4,5 milliards d'euros. Donc c'est 4,5 milliards d'euros plutôt que de s'en servir pour essayer de pallier aux conséquences de cette agro-industrie, mettons-les pour répondre aussi, puisque si on parle de sécurité sociale alimentaire, c'est bien qu'il y a un problème d'accès à l'alimentation. Donc cet argent-là, en fait, il sort de la poche quand même des citoyens, puisque c'est nous, par nos impôts, par tous ces moyens-là, qui permettons à la dépollution et qui ou payons pour notre santé, etc. etc. Donc, plutôt que d'essayer de mettre des pansements qui nous coûtent très très cher, mettons ne serait-ce qu'un quart de cet argent-là en amont, en prévention, en transition agroécologique, en accompagnement d'une alimentation, d'une sécurité sociale, pour un accès à une alimentation de qualité pour tous. Je veux dire, c'est absolument dégueulasse que les gens, parce qu'ils n'ont pas de rond, se trouvent à acheter de la nourriture la plus pourrie qu'on est capable de produire. Donc c'est... Voilà, il faut qu'on ait un remède à ça. On est vraiment, on voit bien ces inégalités de... Et à chaque fois, on a toujours cette même inégalité. Donc on est bien face à plusieurs urgences. On a une urgence climatique, une urgence environnementale, on a une urgence sanitaire, une urgence sociale. Et donc je pense qu'il faut vraiment se mettre à travailler là-dessus. Les moyens, on les a, sauf qu'ils ne sont pas fléchés au bon endroit.
Et pour rebondir sur l'alimentation... de basse qualité et très peu chère, il y a aussi beaucoup de gens qui se tournent vers l'aide alimentaire, en sachant que l'aide alimentaire entretient le système des agro-industriels, puisque chaque quantité de nourriture qui donne grassement à l'aide alimentaire, ils ont
des défiscalisations,
merci.
Oui, en effet. Et puis, cette question de l'accès à la bonne alimentation, eh bien, ferait baisser aussi les coûts de la sécurité sociale dont tu parlais aussi, qui est aujourd'hui endettée d'ailleurs. Donc, pour conclure, peut-être on peut parler de vos actualités. Alors, je sais que pour Secrets Toxiques, il y a aussi un film qui tourne beaucoup en France et il y a une projection à Requista jeudi prochain.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, le film tourne... On a presque une projection tous les 2-3 jours, là, et je crois qu'on a fait 140 projections en 2023. Et ça continue en 2024, même encore plus, je crois, qu'en 2023. Donc on a, oui, ce film, on a un livre qui est sorti qui s'appelle aussi Secret Toxique. Non, c'est pas cassé la tête, le film s'appelle Le Secret Toxique, le livre, l'association, tout s'appelle Secret Toxique.
Au moins c'est clair,
on sait de quoi on parle. Et voilà, donc on continue l'information du public, parce qu'on pense être protégé par des agences dont le joli nom est sanitaire. Et on voit bien qu'elles ne font pas du tout le travail qu'on attend d'elles, alors qu'elles sont censées être au service de la population. Mais on voit que malheureusement, intentionnellement ou pas, elles sont quand même au service de l'industrie.
Donc ce sera à Requista jeudi 29 février à 20h30. Mmh. Et puis pour la Confédération Paysanne, donc la mobilisation continue.
Alors oui, on sort juste de mobilisation hier. On va continuer. Pour l'instant, on va y réfléchir. On prépare l'AG aussi. Enfin... Il y a beaucoup de choses. Il y a le salon de l'agriculture, donc on va aussi monter là-haut pour tester. Enfin, il y a beaucoup d'actions qui vont se mener au niveau national ces prochains jours. Et on continue.
Très bien, merci. Merci à vous deux. Donc, Philippe, Pierre, je le rappelle, tu es le co-président de Secrets Toxiques. Et Sarah Melki, tu es la co-porte-parole de la Confédération Paysanne en Aveyron. Et bien, on arrive presque à la fin de cette émission. Alors, avant de conclure, je vous propose d'écouter Justine Wojtyniak, comédienne et metteuse en scène au sein de la compagnie Le Retour d'Ulysse, et Katia Fersing, qui est directrice du musée de Millau et des Grands Causses. Justine est actuellement en résidence d'écriture au musée de Millau, autour d'Emma Calvé, et depuis mercredi de cette semaine, elle fait des restitutions publiques de son travail. Elle m'a parlé de sa démarche et elle a aussi une petite annonce à faire passer. Bonjour Justine et Katia. Je vous rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une résidence d'écriture que tu es en train de faire. Justine, tu es comédienne et metteuse en scène. Donc c'est une résidence autour d'Emma Calvé au musée de Millau et des Grands Causses. Donc on va commencer par ça, Katia. Donc tu es directrice du musée. D'où vient l'idée de cette résidence ?
Au musée, on a un ensemble de collections qu'on conserve et qu'on présente et qu'on partage avec le public. Et il se trouve que en 2025, on souhaite se concentrer en particulier sur la collection Emma Calvé. Emma Calvé, c'est une cantatrice de la Belle Époque, née en Aveyron, qui voilà, a eu une carrière exceptionnelle dans le monde de l'opéra et du chant lyrique. Et donc, c'est une femme de scène et elle a incarné de façon extrêmement vigoureuse et passionnée les personnages qu'elle a joués. C'est une femme du spectacle vivant. Voilà pourquoi, en lien avec cette collection, on a souhaité faire un pont avec justement le spectacle vivant et on a souhaité inviter une artiste du territoire à s'emparer des ressources qu'on présente ici au musée pour peut-être porter un regard différent ou en tout cas ancré dans le temps présent sur cette collection et sur cette femme hors du commun qu'est Emma Calvé.
Alors Justine, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme donc cette résidence d'écriture se passe au musée, je voulais savoir quel est ton rapport au musée en général, pas seulement le musée de Millau.
Excellente question, effectivement. Moi, je vais beaucoup, beaucoup au musée, mais c'est surtout pour voir davantage les peintures que les histoires. Et là, effectivement, mon rapport va un peu changer puisque la collection consacrée à Emma Calvé est une collection assez particulière, c'est-à-dire elle est consacrée à une vie des divas, c'est une forme d'inventaire. Moi, j'aime bien parler de musée de nostalgie et d'échec. Nostalgie à travers les souvenirs, les objets porteurs de mémoire, les costumes... Et d'échec, puisque un quart de seconde, on comprend la courte vie que quelqu'un peut avoir. Et c'est quelque chose d'assez vertigineux de pouvoir penser à partir d'un art qui est éphémère en soi. En plus, à cette époque-là, on en a parlé justement ce matin, des enregistrements sonores d'Emma Calvé, que d'une certaine façon, elles sont pour nous des reliques, mais qui nous transportent peu, qui nous donne peu de plaisir de fait comment elles étaient enregistrées. Donc effectivement, on est en train d'imaginer, de travailler à partir d'une vie qui est disparue et en même temps qui est restée.
Elle a un parcours d'errance un peu intérieure sur sa quête de spiritualité. Elle était passionnée d'occultisme aussi et je sais que c'est un thème aussi qui t'est cher dans tes créations. Tu as aussi fait des spectacles sur le lien avec la nature, le vivant. Donc je pense que c'est un thème qui va ressortir en tout cas de cette résidence qui va se retrouver dans ta création.
Je l'espère, mais le rapport à l'invisible m'est très cher. Je pense que c'est aussi peut-être un thème qui nous est cher à toutes les deux, à Katia et moi. Les théâtres, l'art de convoquer les fantômes. C'est exactement peut-être la raison de mon invitation ici. Et puis c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à ces séances de spiritisme. C'est des formes de théâtralisation de soi, de mise en lien avec l'invisible, avec nos chers disparus, de voilà, les personnes qui ne sont plus là, mais qui ont des choses à nous apprendre. Et c'est vrai qu'au théâtre, on fait énormément ça. Mais comme dans les séances de spiritisme, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle cherchait aussi en étant aussi adepte de ce table tournante, on pourrait se dire aussi c'est une époque, voilà, c'était très à la mode, mais j'ai l'impression qu'elle voulait aussi tisser ses liens à l'invisible, donc ce qui nous réunit. Voilà. Et ce qui aurait été génial, c'est, je l'ai plaisanté, mais en réalité, c'est quelque chose là qui est, voilà, sur ma liste de résidence, c'est mettre une annonce, cherche médium pour une séance de spiritisme avec Emma Calvé. Donc, si un médium et quelqu'un qui s'y croit médium nous écoute, là, peut nous écrire.
C'était Justine Wojciniak et Katia Fersing à propos de la résidence d'écriture autour d'Emma Calvé. Des restitutions publiques sont prévues cette semaine si vous voulez suivre le travail de Justine sur la création d'un spectacle. Vous pouvez donc la retrouver aujourd'hui, jeudi, à 17h au musée de Millau et demain, vendredi, toujours à 17h au musée. C'est la fin de cette émission. Merci à nouveau à mes invités Sarah Melki et Philippe Piard. Merci à Lilou et Nicolas pour leur chronique. Et merci à toi Nico pour la technique.
Avec plaisir.
Donc on aura l'occasion de reparler bien sûr d'agriculture et de ces sujets. Pour l'instant, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'actualité locale. Et cette émission-ci est rediffusée vendredi à 19h et sera bientôt un podcast sur notre site internet. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler aussi l'Assemblée Générale de Radio Larzac le samedi 2 mars à 14h30 au Théâtre de la Deline. C'est l'occasion de venir nous rencontrer. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation sur nos ondes. À bientôt.